Chers amis, bienvenue à l'écoute de votre radio pour un nouveau passage de la vie de Saint François. Puissant comme une nuée d'orage, le pape trône, tout blanc au milieu des cardinaux en pourpre. À ses pieds est agenouillé François, pieds nus, les longs cheveux en désordre, vêtu d'une bure rapiécée et poudreuse. Il retient de ses deux mains les battements de son cœur. Derrière lui, les petits frères sont prosternés, épris, suants et tremblants. Car bientôt, ils vont apprendre si la règle est approuvée ou rejetée. C'est une attente terrible. Ces hauts seigneurs sont comme des idoles égyptiennes, austères, froids, savants, chargés de croix d'or et armés de gros livres. Les cierges brûlent sur des chandeliers d'argent et la voûte aux mosaïques dorées a des reflets mystérieux. Et puis, ce pape, qui se sentirait à l'aise quand c'est d'un tel pape qu'il doit attendre une faveur? Quoiqu'il n'ait pas 50 ans, et que son visage glabre paraisse plus jeune encore, il est violent comme une mère. Il a une haute idée de la papauté et veut être le maître en tout. Il ignore la crainte, il a des plans comme quelqu'un qui bâtit les mondes. Un pape dont on écoute en tremblant les paroles comme des tonnerres, qui, lorsqu'il frappe du pied le sol à Rome, fait tout craquer jusqu'en Angleterre, outre-mer, qui harcèle les hérétiques comme on met le feu à un guépier, qui, d'un bras de fer, fait régner l'ordre parmi ses sujets, qui, ne reculant devant aucune guerre, organise une nouvelle croisade, qui couronne des empereurs et devant qui princes et rois s'agenouillent le cœur serré. Devant ce géant, ce dominateur, se tient François, attendant l'approbation de sa chétive règle de pauvre. Un mot et son idéal gît dans la boue ou rayonne environné d'un grand éclat. C'était la troisième fois qu'il paraissait devant ce pape. La première fois, François l'avait abordé avec des paroles aimables et gaies, comme il le rencontrait dans un couloir du palais. Mais le pape s'était montré dur et de mauvaise humeur. Il en avait assez de ses ordres de pauvres. Cela n'aboutissait à rien sinon à l'hérésie, comme en France, avec ses pauvres de Lyon. Comment un chétif bonhomme tel que François osait-il parler de rénover et rajeunir l'Église? Il fallait pour une telle œuvre d'autres gaillards. Laissez-moi tranquille. Le pape n'y pensa plus, mais François en fut consumé. Il parvint à être reçu en audience chez un cardinal, Jean de Paul, et celui-ci, lorsqu'il eut entendu François, frappa du poing la table et dit « Tu es l'homme qui peut sauver l'Église, j'intercéderai pour toi ». Et il le fit avec enthousiasme, comme quelqu'un qui a découvert un nouveau monde. Tant et si bien que les mendiants d'assises purent venir lire leurs règles devant le pape. Il eût fallu alors entendre les cardinaux. C'était impossible, au-dessus de la faiblesse humaine, etc. Ils lançaient les foudres de leur science contre cette petite règle simplette comme contre une hérésie. Alors se dressa le cardinal Jean de Paul et il dit avec indignation « Si vous croyez que l'Évangile est impraticable et retenez les hommes qui veulent le pratiquer, pourquoi sommes-nous ici? Vous insultez Jésus lui-même. » Les cardinaux se turent, gênés, et le grand pape fut si touché de ces paroles enflammées, si ému par la petite règle de François qu'il lui dit « Mon fils, va prier afin que Dieu nous fasse connaître sa volonté. » Ah, comme ils avaient prié, François et les frères, à s'arracher le cœur. Et voici la troisième fois que François est ici. Maintenant, ce sera quitte ou double. Mais le pape et François avaient eu chacun un songe étrange. Le pape avait rêvé qu'il voyait son Église se lézarder, et lorsqu'elle était sur le point de s'effondrer, se présenta un petit homme qui l'étaya de ses épaules, la redressa, et la remit sur ses bases comme neuve. et François avait rêvé qu'il était devant un grand arbre. Il étendait les mains vers le sommet, il grandissait à mesure qu'il levait les bras, et soudain, le sommet s'abaissa spontanément jusqu'à lui. François croyait avec toute sa confiance que le pape était cet arbre. Et le pape était tout à fait sous l'impression que ce petit homme chétif qui avait redressé l'église devait être François. Le pape le regardait maintenant comme s'il essayait de lui scruter toute l'âme. De nouveau commencèrent les doctes arguties sur l'impossibilité de cette règle. Le pape n'écoutait pas et tout à coup il demanda à François. « Es-tu bien sûr que Dieu et les hommes continueront à t'assister ?»« Naturellement, Saint-Père, s'écria François. Je vais vous raconter une petite histoire. Écoutez, il y avait une fois une jeune fille, très belle, mais pauvre, et elle vivait dans le désert. Un roi opulent la vit et l'épousa. Et ils eurent de beaux enfants qui leur ressemblaient à l'un et à l'autre. Le roi retourna dans son pays et la mère éleva les enfants. Quand ils furent devenus grands, elle ne sut plus que faire, et pour leur épargner la faim, les envoya à leur père. Il les reconnut aussitôt pour ses fils, les embrassa, et leur donna la meilleure place à sa table avant les étrangers. « Et quel est le sens de cette histoire ?» demanda le pape qui l'avait écouté comme un chant de troubadour. « Que je suis cette pauvre femme, aimée de Dieu, que les petits frères sont mes enfants, et que le roi des rois, qui même aux pécheurs accorde des biens temporels, ne nous abandonnera certes pas, nous, ses propres enfants. » Le pape était très ému. « Un homme pareil est irrésistible, pensa-t-il. Voilà le petit homme qui, par sa force spirituelle et sa foi pure comme la neige, saura ramener les hommes à la vraie foi de charité. » Et à l'étonnement de tous, il descendit de son fauteuil d'or, vint à François et l'embrassa, le grand arbre qui s'abaissait. Et il dit à haute voix, comme pour le bien coudre dans l'oreille des cardinaux, « Partez maintenant et que Dieu vous accompagne. Prêchez la pénitence à tous les hommes comme Dieu vous l'inspirera. Et quand il vous aura multiplié en nombre et en grâce, revenez chez moi, plein de joie, et je vous accorderai plus de faveurs, pour vous donner avec certitude plus de pouvoir encore. Je vous donne ma bénédiction, à toi et à tes enfants. Sois leur guide. » Le grand pape les bénit. Les cardinaux se regardèrent avec circonspection. Ensuite, François et ses frères furent tonsurés en signe qu'ils étaient d'église. La grande église de Saint-Ruffin ne pouvait contenir la foule. Les gens se pressaient jusque hors du porche. François allait prêcher. Le pape l'avait approuvé et l'évêque l'avait chargé de donner un sermon. Toute la ville était là. Les autorités religieuses et civiles, les nobles, les riches, les bourgeois, les ouvriers, les mendiants et les paysans. Sa mère elle-même et son frère et son père aussi. Bien que vieilli par cette épreuve et devenu blanc de cheveux et taciturne, Pierre Bernardone était heureux cependant que ce fût son fils que le pape avait embrassé, son fils dont toute la contrée parlait, son fils qui prêchait. L'homme le plus célèbre d'Assise. Hélas, que ne s'habillait-il un peu mieux, lui, le fils du plus riche drapier ? Et Pierre venait écouter, assez gêné, mais tout de même trop fier pour rester chez lui. Devant l'autel, François prit à genoux pendant que le prêtre commence la messe et après l'évangile, il monte en chaire. Tous se tiennent tranquilles et le regardent. Quel petit homme malingre ! c'est à peine s'il dépasse du buste la rampe. Voilà donc celui qui a tant ému le pape. Et dire qu'il faisait la noce, jadis. On ne peut pas se figurer ça, tel qu'on le voit ici. Il flotte sur son visage quelque chose de céleste. Et il prêche. La voix sonne claire sous les voûtes. Ce n'est pas un sermon, cela. C'est un poème. Le thème ne varie point, mais quand c'est lui qui le dit, tout est si lumineux, si beau, et si jeune, et frais. On dirait des assauts d'amour, des explosions de sentiments divins. Inutile de donner un nom à cela, c'est beau tout simplement. Aimez-vous les uns les autres et oubliez que vous êtes riche ou pauvre, car un homme ne vaut que ce qu'il vaut aux yeux de Dieu. Je suis un ver de terre et non un homme, et nous ne devons jamais désirer d'être au-dessus d'autrui, mais soyons soumis les uns aux autres. Dieu est en vous, aussi bien dans le mendiant que dans le riche. Vous êtes donc frères. Mais Dieu n'est pas en vous quand vous vivez en état de péché mortel. Alors c'est la nuit en vous et votre cœur est l'encre du démon. Vous ne pouvez connaître qu'une seule richesse, la lumière divine. Passez-la vous comme des flambeaux dans la nuit. En vivant vertueux, vous n'êtes pas seulement les fils de Jésus, mais ses frères, son époux et sa mère. À ce moment, il vit sa mère, elle le regardait. Et son père se tenait à côté d'elle, un peu penché en avant. Comment cela arriva-t-il? Un frisson de bonheur le parcourut. Pouvoir prêcher devant ses parents, surtout devant sa mère. Sa mère. Et ses paroles jaillissaient maintenant comme des fusées. Ah, la vie est si simple, le noyau de la vie est amour. Comme tout cela paraissait d'une pratique facile, quand c'est lui qui le prêchait, tout le monde était entraîné par sa sainte passion. Des cœurs se fendaient, des âmes s'ouvraient et les larmes coulaient abondantes et lénifiantes. Pendant toute une heure, l'église résonna de sa romance d'amour. Il paraissait soulevé dans la chair comme par une danse. Ses gestes étaient comme une pluie d'étoiles. Et quand il se fut signé à la fin, il descendit doucement et vite pour se dérober. Mais la foule, sous le charme de sa personne, se rua en avant comme une vague, cria, sanglota, les mains tendues pour le toucher, pour embrasser sa bure. Ce fut une cohue soudaine, on eût dit que l'église s'effondrait. Et François jeta comme un cri d'alarme au-dessus du tumulte, « Non, pas moi, mais Dieu, Dieu, pas moi !» Alors, ils le laissèrent partir et tombèrent à genoux. Il y avait une lune claire qui grimpait entre les arbres de branche en branche. Les frères dormaient. Entre les troncs bougeait une forme humaine qui s'approchait peu à peu. On entendait ses soupirs et ses sanglots retenus. De derrière un arbre, elle s'attardait à contempler les frères qui, aussi tranquilles que des plantes, dormaient dans le clair de lune. Longtemps, elle demeura là, soupirant de temps en temps. Ah, pouvoir reposer ainsi, paix, paix, paix. Dieu, aidez-moi à l'avouer, donnez-moi le courage. Un des frères remua, alla se mettre à genoux et commença de prier, courbé vers la terre. Alors l'apparition se retira de nouveau prudemment dans le bois. Le lendemain, au coucher du soleil, elle reparut. Les frères étaient assis, les pieds nus pendant sur le bord d'un fossé sans eau. Ils racontaient leur journée. Égide en était à parler des arbres qu'il avait abattus, lorsque frère Chapeau dit « Chut, là-bas un espion !» Ils tournèrent la tête du côté qu'indiquait son doigt. La silhouette demeura, mais avec une visible envie de s'enfuir. Agile comme un écureuil, François bondit hors du fossé et courut vers ce Tom. Il s'entretint quelques instants avec lui, et les frères virent l'étranger tomber à genoux et baiser les pieds de François. Et François leur cria « Une nouvelle petite brebis, venez voir, venez voir !» Ils y coururent tous à la fois. Qui était là ? Sylvestre, un curé d'Assise, qui avait fait payer naguère à François une cuve de chaux pour Saint-Damien. Ce Tom fort et rougeau semblait brisé et vaincu, méconnaissable. La honte ne m'a plus laissé de repos, gémit-il. Jour et nuit, le remords me rongeait. Cela m'a si bien fait sentir combien je suis encore rivé à la matière. Je ne veux plus voir l'argent. Chez vous, je pourrai me reposer, faire pénitence, acheter la paix. Merci, merci de m'avoir accueilli. François l'embrassa et les frères chantèrent un psaume. « Mais il n'y a plus de place dans la cahute, » dit Frère Chapeau avec humeur. « Nous ne savons pas nous faire plus mince. »« Tu peux t'asseoir sur mes genoux, Frère Chapeau. Est-ce que ça te convient ?» Frère Chapeau se tut comme une carpe. Allait son train heureux et simple. Un des frères coupe du bois et en fait des fagots qu'il va échanger en ville contre du pain. D'ordinaire, c'est le robuste Moricaud qui s'en charge. Égide est redevenu vanier. Ce solide gars a les mains habiles à tout travail. Il colporte ses paniers, criant par les rues et les routes. « Ohé, qui veut de bons et beaux paniers ?» Et en chemin, il fait un bout de sermon aux passants. Sabatine au travail dans les vignobles. Le long aide quelque part à la moisson et rapporte chaque soir une bourse de grains que Frère Chapeau broie en farine, dont il fait des espèces de petits gâteaux. Angelo va à la pêche, il s'y connaît et de porte en porte, il échange son poisson contre de l'huile ou du pain. Ainsi, chacun a sa besogne, François comme les autres. Maintenant, il aide à la vendange. Ils sont tous très occupés. Ajoutez-y leur sermon, leurs visites et soins aux malades, aux lépreux, et quand il leur reste une miette de temps, ils s'enfoncent dans un bosquet ou une grotte pour prier leurs sous, pour s'entretenir avec Dieu. Ils étaient toujours gais de belle humeur, affables de paroles et de manières, et quand ils se rencontraient, ils se saluaient d'un chaste embrassement. François leur est un modèle en tout. Il est leur persévérance, leur père et leur mère, à qui ils ouvrent leur cœur et qui les scrutent d'un regard, qui, lorsqu'un trouble les harcèle, le devine aussitôt, qui satisfait volontiers leurs petits caprices, tant qu'il le peut sans nuire à leur âme. Ils sont suspendus à lui. Lui absent, ils sont gauches et timides, et leur plus grand bonheur est de l'entendre parler de la nostalgie du ciel et de la passion de notre Seigneur Jésus. Il vit tellement ce qu'il pense. Il narre si bien et avec tant de feu qu'il pleure et sanglote, comme s'il voyait la scène se dérouler devant leurs yeux. L'hiver vint tôt. Trois nouveaux frères s'étaient ajoutés. Barbaro, Genièvre et Guillaume. Maintenant, il n'y avait plus une place libre dans la cabane. Il pleuvait dru depuis le matin. Des frères songeaient, tristes. Depuis des jours, la faim les creusait. « Eh bien, mes enfants, dit François, voici donc enfin la vraie pauvreté. » Un cantique résonna. C'était Guillaume et Genièvre qui revenaient. « Nous avons du pain pour 12 hommes au moins, cria Genièvre, et une demi-livre de poire. » Ils se mirent à chanter. « Que tout cela est beau, dit François. Bienheureux le frère qui marche d'un pas agile, mendie humblement et revient à la maison de belle humeur. » Il courut à eux et leur donna à chacun un gros baiser. Le pain apporté disparut vite. François n'en prit point. Je viens de promettre, il y a une minute, de jeûner pendant 3 jours pour obtenir que la joie dans la pauvreté puisse toujours planer sur vous. Angelo se taciturne, cacha sa part sans rien dire. Il voulait jeûner lui aussi, mais ne le révéla point par modestie. Après le repas, ils s'en allèrent, qui chez les lépreux, qui à Assise, à quelque église, ou à l'hospice, ou à une grotte des environs. François, Sylvestre et Pierre restèrent avec Frère Chapeau. Celui-ci entra dans le bois avec une bêche pour déterrer des bêtes. La pluie tombait toujours. Toute la forêt en était bruissante. Dans la cabane, les 3 hommes priaient. Soudain, sans qu'ils eussent rien entendu, une femme se tint debout à la porte, une pauvresse, avec un enfant sur le bras et un autre à la main. « Une aumône, s'il vous plaît. Mes petits-enfants n'ont pas mangé une miette depuis hier. »« Hélas, pauvre femme, nous vous aiderions volontiers, vous le savez. Mais cette fois, c'est impossible. Nous n'avons rien nous-mêmes, n'est-ce pas, père ?»« Si fait, dit François. Nous avons un calice d'étain, un missel et 2 chandeliers de cuivre. Va les chercher, frère Sylvestre, et donne-les-lui. » « Mais alors, nous n'aurons plus de messe !» cria Pierre, inquiet. « Nous entendrons la messe à Assise, » répliqua François. « Mais il n'est pas permis qu'il y ait des gens plus pauvres que nous. Notre seule fierté est d'être les plus pauvres. » Sylvestre, fort contrarié, apporta le calice, le livre et les chandeliers. Vers le soir, les frères revinrent. Aucun ne s'enquit de nourriture. Frère Chapeau coupa de grosses tranches de bêtes. Jamais encore il ne s'était montré si généreux. La nuit tombée, la pluie redoubla. Les gouttes égrenaient d'interminables rosaires à travers le toit, sur leurs capuchons, sur leurs pieds nus, dans le petit feu fumant de bois humide. À certains moments, la fumée était si épaisse dans la cabane qu'il valait encore mieux se tenir dehors sous la pluie. Mais frère Genièvre agitait alors son manteau pour dissiper la fumée. François proposa une belle méditation sur la pauvreté de la Sainte Vierge. Ils récitèrent et chantèrent ensuite quelques psaumes. Enfin, ils se couchèrent. Il leur suffisait, pour être au lit, de s'étendre où ils se trouvaient. L'âcre fumée du petit feu demeura suspendue sous le toit. Par les fentes, l'eau tombait, avec un bruit mat, sur leurs bures minces. La nuit grimpait lentement sur la terre. Tout à coup, des cris qui vous glaçaient jusqu'aux moelles. Tous s'éveillèrent en sursaut. C'était le doux Angelo qui se roulait de douleur. Un frère battit du feu. François tenait déjà le petit frère dans ses bras comme un agneau. « Qu'y a-t-il, mon enfant ? Allons, dis-le, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je n'ose pas le dire, père, je n'ose pas. Tu le diras, je le veux. »« J'ai trop jeûné, père. J'ai voulu vous imiter. » Et je n'en suis pas capable. Tu n'as donc pas mangé tout à l'heure ? Non, père, j'ai caché ma nourriture. La voici. Il la montra sous la paille. Allons, tu vas manger tout de suite. et quoique mon jeûne soit commencé, je mangerai avec toi pour t'enlever tout scrupule. » Et ils mangèrent ensemble, chacun une demi-tranche de pain et la moitié d'une poire arrosée d'une gorgée d'eau fraîchement tombée du ciel. « Approchez la lampe, » dit François. Égide tint la petite lampe d'argile près de leur visage. « Cela t'a fait du bien ?» demanda François. Angelo fit signe que oui. « Retrousse tes manches à présent et montre tes genoux aussi, frère ange. Tandis que je te serai dans mes bras, j'ai senti du fer. Montre-moi ça. » Tous approchèrent un visage plein de terreur, excepté frère Chapeau. Parce qu'Angelo n'y mettait pas assez de hâte, François releva lui-même les manches et le bas de sa bure. Dans le pli de ses coudes et de ses jarrets, Ange avait enroulé à ses bras et ses jambes deux gros fils de fer qui coupaient la chair à tel point que le moindre mouvement le faisait gémir de douleur. François s'anima. « En est-il encore qui font des choses pareilles ? Qu'ils viennent ici et déposent aussitôt leur chaîne. » Ils s'avancèrent tous, excepté frère Chapeau. « Et toi, frère Chapeau ? Moi, je ne fais point des choses pareilles, » dit-il. Et retroussant ses manches, il montra de longs bras velus. « Je ne fais moi que ce que vous ordonnez. » Et les autres étaient là, tout confus, à chipoter et à s'entraider pour détacher les instruments de torture. « C'est une honte !» cria François. « Chacun doit jeûner et faire pénitence selon ses forces. C'est aussi mal de prendre et de faire trop peu que trop. Dieu demande la miséricorde et non le sacrifice. Désormais, vous ne ferez jeûne ni mortification à mon insu. » Quand tous se furent rendormis, François, à genoux, demeura en prière. Vers la Chandeleur, au jour où le temps s'adoucit, mourut le petit curé. On le trouva inanimé près de sa chèvre. Les frères assistèrent tous à son enterrement. « C'est notre parrain, » disait François. « Nous devons beaucoup prier pour lui. » Un matin, François apporta une prime verte en dansant joyeusement. « Soyez heureux, petit frère, le printemps arrive. » Les baisers du soleil ont fait éclore des fleurs d'or. Louons Dieu pour le soleil et pour les primes vertes. Mais qu'est-ce qui se passe dans la cabane ? Tous les frères étaient dehors, embarrassés, regardant vers l'intérieur. Qui menait si grand bruit là-dedans ? François y courut d'une traite. Bernard et deux autres s'avancèrent à sa rencontre en se lamentant. Un ânier nous a chassés de la cabane et il n'en veut plus sortir. François entra vivement. Un ânier, rogue, assis à croupetons, buvait du vin, et un âne, maigre, tremblait sur ses vieilles pattes. Avant que François pût poser une question, l'ânier cria brutalement. « Encore un de ces fainéants ! Va-t'en aux 100 000 diables ! Moi, je ne bouge pas d'ici avec mon âne !» Ils étaient 16 expulsés par un seul bandit. Genièvre eut grande envie de lui administrer une raclée, mais il vivait leur doctrine. « Venez, petit frère, » dit François. « Dieu ne nous a pas appelés à faire le garçon d'écurie. Retournons à Notre-Dame des Anges. » Et c'est ainsi qu'ils quittèrent Rivotorte, où leur vie avait été si dure et si belle, chassés par un âne. « Allez-y, priez, » dit-il, « j'irai, moi, demander aux frères bénédictins l'autorisation d'y demeurer. » L'abbé des Bénédictins, qui habitait sur le mont Subasio, fut heureux de cette demande et répondit « Je vous donne la portioncule. » « Nous ne l'acceptons pas, » dit François, « nous ne voulons rien posséder, mais louez-la nous, nous vous paierons en travail. »« Je n'accepte pas de loyer, » répartit l'abbé. François se tint à son propos et après de longues discussions, l'abbé lui dit « Eh bien, soit. Apportez-moi chaque année un panier de poissons de rivière. J'accepte, dit François. Mais aussi à la condition que ce lieu demeurera jamais le noyau d'où s'étendra votre ordre. J'accepte encore, dit-il. Et ils topèrent comme des marchands. Chemin faisant, François exposa deux reproches à Bernard. Nous y bâtirons de petites cabanes de terre et de bois, une pour chaque frère, afin qu'il y puisse prier et dormir. Oh, que ce sera beau à l'ombre de la chapelle! Dis que Dieu est bien trop bon, et nous planterons une haie, et nul homme du monde ne pourra désormais venir nous troubler. Tout ce qui se dira à l'intérieur de cette enceinte ne peut avoir pour objet que Dieu ou l'âme. Ce sera plus beau qu'un rêve. Et apprenant la bonne nouvelle, les frères eurent envie de danser en rond. Au travail tout de suite, cria Égide. Et ils commencèrent. On coupa des branches, on broya l'argile. Chacun pouvait choisir librement l'emplacement de sa hutte, à l'intérieur des limites marquées par la haie. L'un la voulait tout contre l'église, l'autre sous les arbres, celui-ci tourné vers l'orient, celui-là derrière les noisetiers. On s'entraidait avec des cris joyeux. Ils travaillèrent la nuit entière. La lune était leur lampe. Mon Dieu, une pauvre petite cabane au mur d'argile, si vite construite, surtout quand Égide, ce diable d'homme aux 100 métiers, donne un coup de main. Au lever du soleil, les cabanes se dressaient toutes. « Demain, la haie, dit François, et je désire que ces bons moines soient payés d'avance. » Ils s'en furent tous à la rivière, excepté frère Chapeau. « Je ne puis supporter du poisson dans mes mains, objecta-t-il, c'est trop gluant. » Il trouvait toujours une excuse, celui-là. Mais quand un enfant est un peu revêche, son père ne l'enchérit pas moins, au contraire. Frère Chapeau était pour François un objet de sollicitude et de souci. « Pourvu qu'il n'arrive pas malheur à cette petite brebis, pensa-t-il. » Il était très indulgent envers frère Chapeau. Cette fois-là encore, il lui permit de rester et de mesurer au pas combien il faudrait de pieux pour la haie. Frère Chapeau arpenta à grands pas un carré de terrain. Tous les deux pas, il fallait un pieu. Il s'arrêtait, pivotait sur ses talons, creusant chaque fois un petit puits. Chaque petit puits recevait son poteau. Pendant ce temps, les autres pêchaient dans la rivière, rapide, pleine de cailloux. Il en était qui avait de l'eau jusqu'aux genoux. Ils se servaient de sacs et de petits paniers et ils prirent des brèmes, des éperlans, des brochets. Un panier de poissons luisants et frétillants qui faisait plaisir à voir. Les deux plus jeunes emportèrent le panier, les autres allèrent mendier et les deux plus jeunes revinrent avec une grande cruche d'huile qu'ils avaient reçue comme quittance. Oui, maintenant que les cabanes étaient prêtes, que la clôture y serait demain, que le loyer était payé et qu'ils en avaient reçu une si jolie quittance, ils ressentirent quelque chose qu'ils n'avaient pas connu jusqu'ici, la joie d'être chez soi. Il fallait fêter cela. François bénit chaque cabane et puis il y eut un festin. Ils trempèrent le pain mendier dans la belle huile limpide qui lui coulait des doigts. Et chacun devait dire une chanson comme à toute fête. Égide chanta le Laudate et frère Chapeau le Miserere. Sabatino un cantique à la Vierge, et ainsi de suite. Et François la gloire de Dame Pauvreté. Il chanta debout par respect pour elle. Thank you. Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.